Enfance buissonnière. Réflexion autour de la liberté d'instruire. Un cycle d'émissions à écouter sur Radio Diwa, 107.5 FM ou sur internet rdwa.fr. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un projet de loi qui souhaite interdire l'instruction en famille. Pour en discuter, je reçois trois parents qui ont fait le choix de l'instruction en famille, Sophie, Maëva et Jérôme. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Salut Eric.
Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter.
Eh bien, donc moi, je suis Sophie, je suis mère de trois enfants, dont deux qui sont en âge d'aller à l'école. Un garçon, Maël, de 9 ans, et un autre de 6 ans, Élie. Et donc, on a fait le choix de l'instruction en famille depuis le début avec eux.
Maëva ?
Oui, Maëva. Donc je suis maman de trois enfants aussi. Donc pareil, des deux plus grands qui ont 7 et 8 ans, qui n'ont jamais été à l'école. Et voilà. Donc on a, depuis tout ce temps, ils n'étaient pas à la crèche non plus. On a toujours vécu en famille.
Et je suis Jérôme, donc le papa de deux garçons, Solal et Tao, 8 et 12 ans. Eux deux sont allés à l'école, en particulier dans des écoles alternatives étant petits. Et puis, il y a quelques années déjà, on a fait le choix de l'instruction en famille. Voilà, parce qu'on pensait sincèrement que c'était mieux pour eux et pour notre équilibre familial.
Et donc, il y a un projet de loi qui souhaite rendre tout ça illégal, ce mode de vie illégal. Sophie, tu peux nous présenter un peu plus ce projet de loi ?
Et ben moi, je propose de redéfinir qu'est-ce que l'instruction en famille en France, pour qu'on sache vraiment de qui on parle. Donc, je vous propose de vous dire en fait les chiffres qui ont été sorti par Philippe Bongrand, qui est chercheur en sciences de l'éducation à Paris, et donc qui a étudié sur l'année 2016-2017 voilà, les enfants qui étaient scolarisés à l'école ou en famille. Donc, sur l'année 2016-2017, 99,7% des enfants fréquentent un établissement. 82,7% fréquentent un établissement public, 16,5% fréquentent un établissement privé sous contrat et 0,5% fréquentent un établissement privé hors contrat. Voilà, donc là, on parle des enfants qui sont dans un établissement. Donc l'instruction en famille à ce moment-là concernait 30 139 enfants, c'est-à-dire 0,36% des enfants. Donc, parmi les 0,36% en instruction en famille, en gros, il y en a la moitié, 0,19%, qui sont inscrits au CNED réglementé. C'est-à-dire que pour des raisons qui ont été reconnues comme valables par l'État, l'inscription au CNED est remboursée par l'État. Donc c'est pour des motifs d'itinérance de la famille, pour des raisons médicales, pour des raisons de sport, d'éloignement géographique ou de handicap. Donc dans ce cas-là, le CNED est réglementé, remboursé par l'État, et donc ça concerne 0,19% du total des enfants. Et donc pour le reste, pour 0,17% de la totalité des enfants français, il y en a qui sont au CNED libre, c'est-à-dire qu'eux-mêmes payent le CNED, ou alors dans un autre organisme qui délivre des cours, ou alors sans cours. Donc ça, c'est juste pour dire que ça concerne, voilà, l'instruction en famille, ça concerne une proportion très minoritaire des enfants français. Je voulais aussi parler de l'histoire des enfants non tracés. Enfin, il y a des enfants, en fait, qui ne sont pas enregistrés, enfin, qui ne sont ni à l'école, ni en instruction en famille, et que ça concernerait entre 20 000 et 100 000 enfants, voilà, selon les différents organismes qui comptent ça. Donc ça peut être les enfants de migrants, les enfants à la rue, etc., voilà, qui sont nulle part, on va dire, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. L'instruction en famille, on l'avait déjà dit dans une première émission, y a des contrôles. Tout, c'est vraiment quelque chose qui est très réglementé, puisqu'il y a l'éducation nationale qui vient chaque année faire un contrôle pédagogique dans la famille pour s'assurer que l'enfant est dans un environnement qui favorise les apprentissages. Et une fois tous les deux ans, la mairie vient aussi au domicile poser les questions du choix de ce mode d'instruction. Et donc, je voulais aussi rappeler en termes de chiffres que donc en 2016-2017, 63,6% des enfants instruits en famille ont été contrôlés, que parmi ces enfants contrôlés, la plupart, c'est-à-dire 93% des enfants contrôlés, ont eu un contrôle qui était satisfaisant. Donc il n'y en a que 7%, c'est-à-dire 632 enfants, pour lesquels le contrôle n'a pas été satisfaisant, et ensuite qui ont fait l'objet d'un deuxième contrôle. Voilà, ce qu'il faut savoir, qu'il y a toute une législation en cas de doute. Les inspecteurs peuvent décider d'un second contrôle, et ensuite, si le second contrôle n'est pas satisfaisant, d'une injonction scolaire. Voilà, c'est vraiment un cadre qui est très réglementé. On est très contrôlé. Dans l'instruction en famille. Voilà, je vais en rester là pour l'instant.
Jérôme, tu veux enchaîner pour nous parler de ta vision de ce projet de loi ?
Oui, d'un point de vue personnel, comme ça, je dirais que le choix qu'on a fait dans notre famille de faire l'instruction en famille, ce choix, il est basé sur une forme de prétention qui veut que on veut et on pense sincèrement que ce sera mieux pour nos enfants qu'on fasse l'instruction en famille. Et ce choix, c'est aussi un engagement personnel, tout un mode de vie. Bon, un mode de vie qu'on se permet et qu'on a réussi à organiser, qui n'est pas... forcément facile, puisque c'est aussi un engagement familial. Ça va aussi avec un mode de vie où, moi, personnellement, je travaille dans le milieu artistique, donc je travaille beaucoup les week-ends, pendant les vacances, dans l'enseignement ou dans le milieu artistique, et qui fait que si je veux avoir une relation un peu soutenue avec mes enfants, le choix de l'instruction en famille m'apparaissait être le mieux. Donc, vraiment, il y a ce choix qui est fait de pouvoir faire mieux que le service proposé par l'éducation nationale, pour telle ou telle raison, dans tel ou tel contexte. Imaginez que ce choix est aboli, interdit, illégal. Pour moi, ça veut sous-entendre aussi que l'école a tout d'un coup cette prétention que c'est l'école, l'éducation nationale et l'école qui fera forcément mieux dans quel que soit le contexte, quels que soient les enfants à qui ils ont affaire, fera forcément mieux que les parents. Et je pense que cette prétention, elle est d'abord insupportable, même pour l'école, pour l'éducation nationale. À mon avis, ça va pas les mettre dans une situation facile. Et puis, c'est une prétention intolérable, injustifiable et impossible. Enfin, on sait aussi que dans l'éducation nationale, il existe l'échec scolaire, des humiliations, des tracas, des dépressions, des idées suicidaires, qu'en sais-je, quoi. Donc, ce n'est pas tout rose. Et donc, voilà. Par ailleurs, le fait d'avoir croisé un peu le monde de l'instruction en famille, hein, que j'ai découvert juste il y a quelques années en m'y mettant. Les familles, on se réunit, on se rencontre, etc. Donc moi, je n'ai qu'à des gens foncièrement honnêtes, bienveillants, extrêmement bien renseignés sur les modes d'instruction, les modes d'éducation, les alternatives à ça. Aujourd'hui, on a tous accès à des connaissances sur la neurologie, le développement de l'enfant, etc. Donc, toutes ces connaissances aussi scientifiques nous amènent à faire des choix particuliers et qui, je crois, sont faits en toute conscience, avec des bien fondés, beaucoup de bonne volonté. Et donc, des gens absolument honnêtes, des bons citoyens, et aussi des enfants, du coup, qui sont, qui vivent des choses exaltantes chaque jour, et qui sont à l'abri de beaucoup de difficultés, et qui sont épanouis, qui sont libres, qui sont consistants, qui s'expriment avec aisance dans des milieux adultes ou avec des plus petits, avec des plus grands. Donc, abolir tout ça au nom de la sécurité ou bien d'une lutte contre la criminalité me paraît absurde. Et pour en revenir à cette histoire de criminalité, puisque c'est bien ça l'objet de la lutte, soi-disant, bon, il y a beaucoup de choses, bon, peut-être Sophie ou Maëva y reviendra, mais criminalité et IEF, est-ce qu'il y a un lien ? Il semble que non, pas vraiment. Mais quand bien même, si la criminalité s'installe, par exemple, dans la politique, ça peut arriver, on peut imaginer, hein, personne n'a eu l'idée d'abolir la politique. Ou si la criminalité s'installe dans le commerce, personne n'a eu l'idée d'abolir le commerce. Donc là, abolir l'IEF, parce que potentiellement, ça peut être un espace dans lequel la criminalité pourrait s'installer, ça me paraît vraiment une idée absurde, quoi, complètement... Voilà. Et puis, balayer d'un revers de main toute une frange de la population et donc criminaliser, nous, c'est fou, quoi.
Oui, moi, je voudrais dire qu'effectivement, la prétendue raison de l'interdiction, la radicalisation, effectivement, déjà, je pense qu'il n'y a absolument aucun lien avec l'IEF. C'est la plupart du temps, les terroristes qu'on a pu voir dans ces dernières années ou même avant, c'était tous des personnes qui sortaient du système scolaire. C'était absolument pas des personnes... instruites dans la famille. L'exemple que nous sert Emmanuel Macron d'école clandestine, c'est pareil, c'est complètement hors du champ de l'instruction en famille. C'est des écoles clandestines, donc non déclarées. Nous, en IEF, on déclare nos enfants comme faisant l'instruction en famille. On est contrôlé, comme le disait Sophie. Donc voilà, tous ces motifs-là sont des motifs qui n'ont absolument rien à voir avec l'instruction en famille. Par contre, à quoi ils servent ? Ils servent encore une fois à stigmatiser toute une partie de la population, donc les musulmans, qui à chaque... très souvent, là, ces dernières années, pour justifier des mesures sécuritaires ou des mesures liberticides, on invoque, soi-disant, le drapeau de la radicalisation islamiste comme étant un phénomène majoritaire très présent, alors que, à mon avis, c'est au contraire très marginal, et que du coup, il y a toute une partie de la population qui est stigmatisée et un peu mise au banc pour à cause de cette communication-là, en tout cas. Et au niveau de l'instruction en famille, moi, ce que je trouve qui est dramatique, c'est que c'est vraiment une liberté, la liberté du choix d'instruction. C'est aussi la liberté de chaque parent de faire passer à ses enfants ce qui lui semble important. Alors après, là, on est en train de... C'est très compliqué pour des familles musulmanes d'avoir à se justifier de leur mode de vie lors de contrôle IEF ou un inspecteur de l'éducation nationale qui arrive dans une famille avec la maman qui porte le voile, par exemple, ou voilà, aura vraiment beaucoup plus de difficultés à faire entendre la légitimité de son choix et à pas être stigmatisé. Et que du coup, là, on vient encore renforcer l'exclusion d'une partie de la société, alors qu'on est quand même dans un pays, à la base, où il y a la liberté de penser, la liberté de culte. Et il faut faire bien attention, à mon avis, parce qu'on est de plus en plus en train d'exclure de la pensée autorisée, la pensée religieuse islamique. Voilà, donc à mon avis, il faut vraiment aussi être très vigilant à ça. Et considérer que la laïcité, à la base, c'est le respect par l'État
de la liberté de croyance et de la liberté de pensée des citoyens, enfin des personnes qui composent la société. Et c'est absolument pas l'obligation des citoyens de coller à la laïcité d'État, au discours produit par l'État et l'impossibilité de penser autrement, quoi. Du coup, là, je trouve qu'on est dans une dérive, enfin, on est vraiment dans une dérive à laquelle il faut être très vigilant.
Moi, je voulais reparler aussi du fait que c'était inscrit dans la loi, cette liberté de, d'instruction dans la famille. Donc, il y a effectivement, tout d'abord, dans la Déclaration des droits de l'homme, depuis du coup, la Déclaration universelle des droits de l'homme, en 1948, dit que les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Et dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui date de 1952, il est aussi dit, alors il faut juste que je le retrouve, que l'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. Et donc ça, je trouve que c'est quand même important de le rappeler, parce qu'effectivement, c'est inscrit dans la loi, en fait, cette liberté d'instruction, et c'est aussi garant d'un bon équilibre de la société. Il y a récemment un colloque qui a été mené, enfin, donc tout récemment au mois d'octobre, par une fondation qui s'appelle la Fondation Kairos, qui est une grosse fondation là, qui se donne pour mission d'innover sur le terrain de l'éducation, et qui dit que la France, la République, les familles ont tous besoin de diversité éducative. Nous voulons garder cette liberté de choix. Souvenons-nous que la liberté scolaire est vraiment au cœur de la responsabilisation des parents, sans laquelle on ne fera rien. Et c'est un petit peu aussi ce qui avait été repris, exprimé par une orthophoniste là, qui a écrit tout un article pour soutenir l'instruction en famille en tant que professionnelle, et qui dit que justement le lien avec les parents, entre les enfants, enfin la responsabilisation des parents dans l'éducation de leurs enfants est prioritaire à son sens pour que les enfants aillent bien, et que effectivement ces derniers temps l'éducation a été est entre les mains de l'école, de l'État, etc. Et que les parents se désengagent de ça, comme ils se désengagent de plein de problèmes de santé, que si leurs enfants présentent des troubles divers, on va aller chez le psychologue, chez l'orthophoniste, etc. Et qu'en fait, elle, en tant qu'orthophoniste, elle dit que, ce qu'elle essaye de reconstruire, c'est de responsabiliser les parents, que les enfants et les parents retrouvent du plaisir à être ensemble, ce qui permet aux enfants ensuite de construire une pensée propre et d'avoir du plaisir, et que l'amour, le plaisir et l'échange sont le terreau du développement humain, et que elle a laissé tomber, elle n'a pas laissé tomber, en tout cas elle met de côté toutes les techniques orthophoniques habituelles, et qu'elle vraiment elle encourage les parents à s'investir auprès de leurs enfants, et que de cette façon eux, ils se développent, ils prennent confiance en eux, et que du coup, ça va, ils seront des citoyens épanouis.
Mais ça me fait penser, par exemple, si on prend l'exemple d'un enfant qui souffre dans le système scolaire, parce qu'il y en a des milliers, qui souffrent, victimes de violences, harcèlement, tout autre type de violence. L'instruction à famille, ça peut être pour les parents aussi une manière de sauver leur enfant aussi, parfois, et de l'aider à se développer quand il n'arrive pas à trouver sa place dans le système scolaire.
Oui, alors il faut savoir que ça, c'était aussi une autre notion, une autre donnée que Philippe Bongrand, là, donc ce chercheur parisien, a soulevé. C'est qu'en fait, sur une année de données, il a étudié là, dans 4 départements français pendant un an, sur l'année 2016-2017, les enfants qui étaient instruits en famille. Et en fait, il faut savoir que la moitié des enfants instruits en famille dans ces quatre départements sur cette année-là ne l'était que pour une année. Donc effectivement, les familles qui choisissent l'instruction en famille, c'est aussi beaucoup des familles qui ont besoin à un moment de trouver cette porte de sortie pour effectivement, quand c'est un enfant qui a une souffrance à l'école, qui a une phobie scolaire, qui est victime de harcèlement, ça peut permettre de souffler. C'est un choix qui est fait par certaines familles juste pour un an. Mmh. Et effectivement, juste parce que je voulais ressortir l'histoire du chiffre, je suis assez chiffre aujourd'hui, mais du coup, il y a 700 000 élèves qui sont victimes de harcèlement en France, dont la moitié de manière sévère, et un adolescent sur quatre qui est victime de harcèlement a pensé au suicide. Donc c'est vraiment un problème important auquel effectivement l'instruction en famille peut proposer une solution facile.
Moi, si je peux apporter mon témoignage, là, mon plus grand, Tao, était à l'école et puis à un moment donné, il souffrait beaucoup d'y aller. C'était très difficile, des pleurs, des angoisses et puis une situation qu'on retrouvait aussi dans la famille où tout était vraiment difficile. Et puis à un moment donné, on a proposé on a imaginé possible cette alternative de l'instruction en famille et on lui a posé la question, est-ce que tu préfères ne plus aller à l'école et on fait l'instruction en famille? Et donc de manière évidente, notre enfant a dit oui. Et à partir du moment où on a respecté ce choix-là qui venait de lui, il y a eu une espèce d'apaisement, de libération. Et puis, maintenant, c'est un enfant qui est complètement épanoui, qui fait plein de choses, qui est passionné par des tas de trucs. Et puis, on pourrait le regarder grandir, pousser, et puis lui fournir ce dont il a besoin pour apprendre. Et donc, ça se passe très bien. Et ce qui m'a assez impressionné, c'est cette histoire de confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait confiance à l'enfant aussi pour savoir quels sont ses besoins. Et à partir du moment où il y a ce rapport de confiance, il y a quelque chose qui est vraiment facile à vivre. Et le rapport à l'apprentissage, hein, on voit chez les bébés entre 0 et 3 ans, avant qu'ils aillent à l'école, mais combien ils emmagasinent, combien ils apprennent, quelle soif, quelle avidité à apprendre tout le temps, constamment, mais d'une façon folle. Nous, adultes, on ne pourrait pas en emmagasiner autant dans le même temps, quoi. Et ce rapport à la confiance, je pense que dans l'IEF, c'est quelque chose qui est vachement important. L'idée qu'il y a une confiance fondamentale dans la nature humaine, quoi, tout simplement, qui fait que ça se passe bien. Ça peut être dans l'apaisement. Donc, l'école qui propose, c'est un temps, c'est une histoire, un apprentissage qui soit associé à la compétition, à la coercition et à la sélection. Moi, j'ai des doutes. Je pense que pour certains, ça peut être super, ça peut être chouette. Et dans certains contextes, c'est certainement ça le mieux. Ça, je le crois volontiers. Mais pas forcément, pas dans tous les cas. Et cette histoire de confiance, je veux dire, le gouvernement qui interdit cette façon de faire, c'est exactement le contraire d'un rapport de confiance par rapport à nous. Au lieu de faire confiance, moi je pense que un autre positionnement aurait pu dire il y a l'IEF, il y a des choses qui se font là-bas, et ben il faut les soutenir, les encourager, proposer même des aides, des subventions d'État, etc., pour être sûr que les parents qui font le choix de l'instruction en famille, ça se passe au mieux, de façon apaisée, super, et que ce soit aussi là une alternative pour le peuple français de vivre avec des enfants qui sont au mieux, quoi. Et donc, plutôt que faire ça, c'est le choix exactement inverse. On interdit tout, on ferme les portes, on verrouille. Et puis après, ce serait quoi la suite? L'école qui est un service, l'éducation nationale, auquel la grande majorité des gens adhèrent pour de bonnes raisons, et puis certains qui proposent autre chose. Donc là, c'est plus un service proposé, c'est une obligation. Comme l'hôpital pourrait un jour devenir une obligation. Obligé d'aller à l'hôpital, même si on n'en a pas envie. Ou bien le travail, au lieu que ça puisse être un service, une proposition, un choix libre et librement consenti par les gens, qui en général font ce choix-là parce que c'est le meilleur pour eux, ça devient une obligation. Et là, il y a vraiment un point de bascule, à mon avis, dans la société, qui est bien flippant, quoi.
Oui, moi, je trouve que c'est très révélateur de cette tendance de l'État à vouloir imposer toujours plus de contrôle. On le voit dans plein d'aspects différents. Les lois sécuritaires qui ont été votées à chaque fois qu'il y a eu des crises, que ce soit terrorisme ou là actuellement le Covid. Enfin, à chaque fois, c'est prétexte de toute façon à exercer plus de contrôle sur la société. Là, la liberté d'instruction, pour moi, elle est importante au même titre que plein d'autres libertés qui vont permettre de garantir la diversité, enfin de protéger cette diversité qui fait la société, que les enfants pour qui c'est une bonne solution à y aller à l'école ou alors dans des écoles alternatives ou alors puissent être instruits en famille et qu'on n'arrive pas là ce que Macron dit dans son discours, c'est que c'est à l'État de forger les esprits. Moi, je pense que surtout pas que les esprits des enfants doivent être déjà forgés selon leur propre centre d'intérêt et ce qu'ils aiment, mais surtout pas forgés par l'État. Là, on arrive dans une volonté d'uniformiser complètement la formation des esprits. C'est absolument scandaleux, je trouve.
Mmh. Oui, moi, je rebondis sur ce que tu dis, Maëva, parce que j'ai trouvé là, sur l'histoire, un historique de l'école. Dans les années 1790, donc exactement en 1792, donc c'était Condorcet qui a beaucoup réfléchi et proposé des lois sur l'école. Et il était, lui, farouchement opposé à une éducation totale prise en charge par l'État, en soulignant qu'il ne peut y avoir de réelle liberté d'opinion si la société s'emparait des générations naissantes pour leur dicter ce qu'elles doivent croire. Et du coup, je voulais aussi rebondir cette radicalisation qui serait en lien avec l'instruction en famille. Il y a plusieurs études, pour compléter ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait que l'instruction en famille est vraiment très contrôlée. En tout cas, il y a un texte qui est sorti là au mois d'octobre 2020. Un vademécum qui se retrouve sur le site EduSchool, qui dit que les cas d'enfants exposés à un risque de radicalisation et repérés à l'occasion du contrôle de l'instruction au domicile familial sont exceptionnels. À nouveau, Philippe Bongrand, du coup, disait ça, lui qui effectivement étudie depuis plusieurs années l'instruction en famille. Il dit que les signalements à caractère religieux sont exceptionnels. Donc c'est vraiment, il n'y a vraiment aucun lien entre radicalisation et instruction en famille. Et ça avait été déjà beaucoup brandi il y a quelques années. On avait dit qu'il y avait des dérives sectaires dans l'instruction en famille. Mais la Miviludes avait pendant plusieurs années, pendant 10 ans je crois, de 2003 à 2009, avait fait plusieurs enquêtes annuelles et qui n'ont jamais établi aucun lien entre l'instruction en famille et l'emprise sectaire.
De la Miviludes, tu peux nous rappeler ce que c'est ?
Donc la Miviludes, c'est une organisation d'État qui étudie les sectes, qui essaye d'étudier le système de sectes.
Vous voulez rajouter un petit point sur cette liberté de pensée, liberté fondamentale qui est en train d'être érodée petit à petit ?
Oui.
Si cette loi passe, évidemment.
Je proposais d'essayer de réfléchir sur l'histoire, sur qu'est-ce qui mène à la radicalisation religieuse. Parce que, en fait, donc j'ai trouvé là, au Canada, ils ont pas mal étudié justement qu'est-ce qui conduisait les jeunes à se radicaliser. Et il y a une Canadienne qui a fait un mémoire en 2014 qui s'interrogeait sur l'impact des espaces éducatifs sur la radicalisation des jeunes. Et en fait, là où Macron, sa proposition, c'est de mettre tout le monde à l'école. Là, cette Canadienne, elle montrait l'influence du vécu scolaire en termes de marginalisation et d'isolement sur le processus de radicalisation des jeunes. Et selon elle, les sentiments d'aliénation, de marginalisation qui ont contribué à leur radicalisation ont été aggravés au sein de leurs espaces éducatifs respectifs. Et il y avait un autre article dans ce même compte-rendu là, canadien qui expliquait que, en fait, il y avait des facteurs de désaffiliation des jeunes des cités qui conduisaient du coup à la violence djihadiste. Il y avait le chômage important, la difficulté d'accès à l'emploi, le taux de décrochage scolaire important, la vie dans des habitats dégradés, la ségrégation spatiale, des contrôles policiers quotidiens et l'ethnicisation des rapports sociaux. Voilà, Maëva, je te laisse.
Oui, l'école produit. Bon, l'école est très adaptée dans plein de situations. Enfin, on veut absolument pas faire le procès de l'école. Enfin, on n'est pas à l'inverse en train de vouloir abolir l'école. Pas du tout. C'est juste pour défendre le fait que plusieurs solutions doivent coexister. Mais on est quand même tous conscients que l'école est effectivement produit beaucoup d'exclusions aussi, et que quand on rajoute à cette exclusion qui est produite par l'école des discours politiques qui vont stigmatiser, qui vont montrer du doigt une partie de la population, en fait, on va renforcer des dynamiques identitaires au lieu d'apaiser les choses et de faire en sorte que tout le monde se sente à sa place dans ce pays, en fait. Et que plus on va parler de séparatisme, plus on va parler de radicalisation, en laissant penser que c'est l'affaire des musulmans, alors que les musulmans n'ont, eux, non plus rien à voir avec la radicalisation, en vrai. Voilà, plus on va renforcer des dynamiques et des tentations de, pour défendre son identité, aller à l'encontre de ceux qui produisent ce discours d'exclusion. Du coup, je pense qu'il faut être bien vigilant à ça, et au lieu de brandir comme étendard la lutte contre la radicalisation, la sécurité, il y a bien d'autres questions à se poser sur l'exclusion et les dynamiques d'exclusion, de ségrégation. Voilà.
Ouais, mais j'ai l'impression que c'est en fait la proposition du gouvernement, c'est un peu prendre les choses complètement à l'inverse. C'est-à-dire, ce qui semble, c'est que des gens qui sont dans une forme de misère sociale et de désir de vengeance ou de vraiment en perdition, trouvent peut-être dans le radicalisme religieux une occasion de s'abandonner à une espèce d'instance supérieure où ils abandonnent leur libre arbitre pour trouver une forme de sécurité dans la folie. Et l'idée d'abolir des libertés au nom de la sécurité me paraît être un projet qui va à l'encontre du bon sens et qui passe complètement à côté de ce qui se passe, quoi. Enfin, à propos de ce rapport entre liberté et sécurité, voilà, j'ai trouvé deux petites phrases. Par exemple, il y a Thomas Jefferson qui dit « Si tu es prêt à sacrifier un peu de liberté pour te sentir en sécurité, tu ne mérites ni l'une ni l'autre. » Et Benjamin Franklin dit à peu près la même chose. « Ceux qui sont prêts à abandonner une liberté fondamentale pour obtenir temporairement un peu de sécurité ne méritent ni la liberté ni la sécurité. » Et bon, évidemment, abolir des libertés au nom de la sécurité, on est en plein dans ces questions-là. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'espèce, on est face à tellement de déboires, de difficultés. Bon, il y a la crise écologique, etc. C'est d'autres choses, mais les réponses, je pense qu'elles peuvent se trouver dans la société civile, dans l'encouragement de la société civile à prendre en charge des tas de choses, puisque c'est la volonté et la confiance qu'on peut faire dans les gens. Et donc, la tendance étatique de trouver des solutions à tout ça, c'est difficile d'y croire, quoi. Et puis là, en ce qui nous concerne, évidemment, je veux dire, nous autres qui faisons l'instruction en famille, qu'est-ce qu'on va faire? On est des honnêtes gens qui vont être poussés dans la criminalité ou dans l'illégalité. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Je sais pas.
Et tout ça, ça va se décider lors d'un vote qui va avoir lieu début décembre, c'est ça? Les prochaines étapes de ce projet de loi, vous pouvez nous en dire un peu plus?
Eh bien oui, ce qui est annoncé, c'est que le 9 décembre, le projet de loi va être déposé au Parlement. Et donc ensuite, entre les députés et puis les sénateurs, ça fera un petit va-et-vient pour organiser tout ça. Après, ce que je voulais aussi dire par rapport à ça, c'est que notamment Macron dans son discours et même ensuite dans le fameux vademécum, c'est-à-dire le document dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est déjà sorti donc au mois d'octobre 2020, c'est comme si c'était déjà acté en fait que cette loi était passée, et c'est comme s'il outrepassait en fait la démocratie, notre organisation démocratique de décision en fait, de vote des lois. Et parce que ça a scandalisé, ça scandalise toutes les familles qui font l'instruction en famille notamment, parce qu'effectivement, dans le discours de Macron, il le présente comme un fait déjà accompli. Il y a déjà effectivement dans ce vademécum qui est sur le site de l'Éducation nationale, ils disent que effectivement à la rentrée 2021, l'instruction en famille, ce sera plus possible. Alors qu'en fait, il y a quand même un processus démocratique en France qui est à respecter en fait, et que voilà, il prend les pleins pouvoirs quoi.
Et donc il y aura un vote.
Le 9 décembre. Donc là, il y a déjà la commission chargée de l'éducation à l'Assemblée qui est en train de réfléchir à un pré-projet de loi qui sera donc proposé le 9 décembre à l'Assemblée nationale.
Et en attendant, si toutes les personnes qui ont envie de se mobiliser ou de faire peser leur voix pour essayer de comprendre les choix de leurs députés, on peut contacter le député, le sénateur. Il y a aussi d'autres manières de faire entendre sa voix si on souhaite défendre cette liberté,
oui,
qu'est l'instruction en famille. On mettra tous les liens sous le site de l'épisode.
Oui.
Vous voulez rajouter quelque chose là-dessus?
Eh bien oui, peut-être dire que localement, là, sur Die, nous, on est présents au marché de Die tous les jours de marché, donc le mercredi matin et le samedi matin. On s'organise pour tenir un petit stand et être disponible pour les personnes qui ont des questions. Effectivement, vous pouvez aussi écrire un courriel à votre député et à votre sénateur pour dire ce que vous en pensez. Il y a aussi une pétition en ligne sur un site qui s'appelle mesopinions.com, je crois, ou .fr. Mais on mettra
le lien sous l'épisode.
Voilà. Et il y a des associations, l'association Les Enfants d'abord, donc l'EDA, l'association LAIA, L-A-I-T-R-E-M-A-A. Il y a plein d'associations qui soutiennent l'instruction famille et qui peuvent aussi répondre à vos questions.
Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot de conclusion?
Eh bien oui, quoi. Du coup, la liberté de l'instruction, du choix d'instruction qu'on veut donner à ses enfants, c'est une liberté qui a aussi à voir avec la liberté de penser. La liberté de penser, elle a aussi à voir avec la liberté de culte. Enfin, moi, j'ai peur que ça soit toutes ces libertés à la fois qui soient menacées, et qu'aujourd'hui, c'est l'instruction en famille qui est sous les feux des projecteurs, qui subit cet effet d'annonce et peut-être cette interdiction, qui va du coup, si ça passe, effectivement supprimer cette porte de sortie qui concerne même des personnes, des familles dont les enfants vont à l'école et qui un jour peuvent avoir besoin de les retirer de l'école pour une raison X ou Y. Moi, j'ai l'impression qu'il faut quand même replacer ça dans un contexte global de réduction des libertés, et qu'il n'y a pas de petites libertés qui ne nous concernent pas ou de très loin, et que du coup, là, dans ce cas-là, ce n'est pas grave. En fait, il faut vraiment, à mon avis, défendre toutes les libertés qu'on a déjà. Nous, on a peur aussi que si ce projet de loi ne passe pas en entier, par exemple, l'obligation ne passerait pas, mais on va réduire encore le champ de l'instruction en famille en nous obligeant de plus en plus à suivre les programmes scolaires, à se comporter comme on attendrait de nous, comme l'État voudrait qu'on se comporte. Enfin voilà, il y a aussi ce risque de réduction du champ de l'instruction en famille. Enfin, voilà, dans tous les cas, on est vraiment dans une volonté de contrôle. Et voilà, on a le choix entre accepter effectivement de laisser à l'État le choix de nos modes de vie ou alors de défendre nos libertés.
Ouais, moi je dirais bah, nos enfants n'appartiennent pas à l'État. Et puis l'instruction en famille, je le vois aussi comme une possible alternative pour un futur comme ça assez, assez instable pour, par rapport à beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Ça pourrait être une alternative louable et que la balayer comme ça d'un revers de main, ouais, ça craint.
Et moi, je finirais juste pour dire qu'en fait, c'est même, en fait, on sait que l'instruction, c'est ça qui est un rempart contre le radicalisme, et que du coup, que n'importe quelle instruction, en fait, enfin que garder la liberté d'instruction est aussi un rempart contre la radicalisation, puisque de toute façon, que ça soit l'instruction en famille ou l'instruction en école. Le but, c'est quand même que nos enfants s'épanouissent et que des enfants épanouis sont des enfants qui ne vont pas aller se radicaliser.
Merci à vous. On arrive à la fin de l'interview. C'était le premier épisode d'une petite série de reportages, interviews sur l'instruction en famille. Donc, je vous dis à très bientôt pour la suite des épisodes. Merci à vous. Merci. Pour vos témoignages.
Merci.
Et merci. Au plaisir. À très bientôt.
Merci. À bientôt.
À bientôt.
Quelle heure est-il ? J'ai le ventre qui m'appelle. Il est midi, j'ai fait chauffer...